Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Constance Riquelm, je le dis bien ?
Très bien.
Parfait. Et on va parler de parfum. Donc c'est aujourd'hui, c'est Entreprendre dans le parfum. Constance, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Alors, je suis Constance Riquelm, française, parisienne, et professionnellement, je travaille donc dans le parfum, en maison de composition chez IFF, et je suis chargée de compte pour les marques indépendantes.
Très bien.
Donc, je pense qu'il y a plein de mots à préciser dans ce que je viens de dire.
Carrément, vas-y, je te laisse préciser alors.
Alors, en fait, qu'est-ce qu'une maison de composition de parfum ? Donc, on connaît Yves Saint Laurent, on connaît Lancôme, on connaît peut-être Paco Rabanne ou Frédéric Malle, peut-être même Diptyque, donc des marques de parfums.
Ouais.
Et en fait, il faut savoir que dans la plupart des cas, ces marques de parfums n'ont pas de parfumeur maison. Elles font donc appel à des parfumeurs extérieurs qui sont dans la grande majorité employés de maisons de composition. Donc, il y en a une demi-douzaine dans le monde qui emploient ces parfumeurs. Et qui sont capables de créer des odeurs qui vont atterrir dans les flacons que vous portez tous les matins.
Très bien.
Et moi, dans tout ça, je ne suis pas parfumeur ou née, comme on dit souvent. Je suis chargée de compte, donc j'ai la tâche de faire le lien entre les parfumeurs, toutes les équipes qui participent à la création d'un parfum, parce qu'en fait, c'est très complexe, et les marques.
Très bien.
Avec la particularité, et c'est pour ça que je suis là, d'accompagner des marques indépendantes, donc soit des marques de mode qui se lancent dans le parfum pour la première fois et qui n'ont pas forcément envie de confier leur développement à un grand groupe, à laisser leur licence à L'Oréal, qui veulent garder la main parce qu'ils ont aimé ce côté entrepreneur d'avoir le contrôle sur tout. Ou alors des marques qui se lancent tout simplement dans le parfum avec l'envie de faire les choses différemment.
From scratch.
From scratch.
D'accord. Et il y en a beaucoup ?
De plus en plus. En fait, je pense que dans le parfum, il se passe un petit peu la même chose que ce qui a pu se passer dans la mode ou dans la cosmétique. C'est que avant, quand on voulait lancer une marque, on était bloqué à l'entrée par la distribution. Sachant que c'est le cas en Europe en tout cas, mais c'est compliqué de lancer un parfum sans passer par les grands magasins, par Sephora, par Marionneau. Et finalement, comme dans la mode, Internet a un peu changé la donne. Même si on n'est pas du tout, à cause de la spécificité de notre produit, au niveau de digitalisation qu'on peut connaître dans la mode ou dans la beauté. Donc il y en a de plus en plus.
Oui, il y a quand même un vrai sujet de sentir le truc, quoi. Déjà qu'avec le vêtement, il faut l'essayer, c'est déjà compliqué. Alors avec le parfum, c'est un autre sujet, mais on va développer tout ça après. J'ai déjà plein de questions, mais on va reprendre quand même par le début. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, toi ? Où est-ce que t'es né ? Où est-ce que t'as grandi ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au monde du parfum ? Et comment t'es rentré dedans ? Est-ce que c'est si simple d'y rentrer ou pas ?
Alors, je suis née en France, mais j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, dans les tropiques. Je suis revenue à Paris quand j'avais 11 ans et j'ai une double culture, je suis franco-argentine.
D'accord.
Donc, mais dans tout ça, pas grand-chose à voir avec le parfum. Et je pense que le parfum, comme la plupart des gens qui travaillent dedans et comme les gens qui aiment ça, c'est avant tout se rendre compte du pouvoir d'évocation incroyable des odeurs. Et je pense qu'on l'a tous vécu, de marcher dans la rue, de se faire attraper le nez par une odeur et de rester bloqué parce que ça nous rappelle un souvenir sur lequel une émotion, on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Et pourtant, c'est là et ça nous ramène tout de suite à des sensations. Donc, il y a ce pouvoir de fascination dont joue la pub des parfums, en fait. Le parfum, c'est ce produit magique qui va permettre de se transformer alors qu'on ne le voit pas, quoi. Et donc, il y a toujours eu cette fascination. Et c'est seulement sur le tard que j'ai découvert le monde des maisons de composition de parfums qui, effectivement, est très mystérieux, très peu connu, et que j'ai découvert un peu par hasard, finalement.
Pourquoi sont-ils si peu connus ?
parce qu'ils sont toujours derrière, ils sont behind the scene, quoi.
Oui, je pense que c'est parce que ce sont des fournisseurs, finalement, que pendant longtemps, on n'a pas parlé des parfumeurs. Ça veut dire que je pense que pour le grand public, quand on achetait un parfum de Yves Saint Laurent, on pensait que c'était Monsieur Saint Laurent qui avait composé le parfum, d'une certaine manière. Et c'est très récent qu'on connaisse le nom des parfumeurs. On le connaît de plus en plus. Je pense que c'est un mouvement comme dans la cuisine où les chefs deviennent connus. Mais voilà, donc on sait que ce métier existe. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne se sont jamais posé la question de savoir si c'était quelqu'un qui avait composé le parfum qu'il portait.
Ouais. Et alors, comment tu t'es formé? Tu as été à l'école? Tu as fait des études ou pas du tout?
Non, alors moi j'ai fait des études, j'ai fait une hippocagne-cagne très classique, une école de communication. Okay. Et une copine qui savait que le parfum m'intéressait, qui m'a dit que sa cousine bossait dans le parfum. Donc je lui ai écrit un mail, j'ai débarqué dans cette boîte, j'ai regardé le site internet, je comprenais rien. Il y avait des photos de mecs en blouse de chimie, enfin des trucs très, très, très corporate. Et finalement, en passant la porte, on tombe sur des parfumeurs qui ont signé les plus grands parfums du monde, des odeurs partout et puis des rires parce que c'est un métier où on s'amuse beaucoup.
Ouais.
Et voilà, et puis j'ai eu envie de rester parce que c'est un monde passionnant. J'ai fait des détours par la pub, un peu par le conseil, et puis finalement...
Mais t'as bossé dans quelle boîte? Tu peux nous partager un petit peu?
C'est des petites boîtes pas connues, mais j'ai travaillé... j'ai fait un stage, en fait, chez Carlin. J'ai été dans une petite boîte de conseil qui s'appelle Intuition. J'étais dans une petite agence de pub qui s'appelle Mad Agency, qui s'occupe d'Etam, de Bulgarie, de Zadig et Voltaire. Mmh. Et là, donc, je suis chez IFF dans le parfum.
D'accord. Et... aujourd'hui, ton métier consiste en quoi?
Alors, mon métier, c'est que je suis chargée de compte, commerciale, account manager. ça dépend un petit peu. Et en fait, c'est moi qui vais être la porte d'entrée des marques quand elles veulent développer un parfum avec nous.
Mais alors, comment ça se passe? Est-ce que moi ou Jean-Michel veut se lancer dans le parfum? Il veut créer son parfum. Je suis une marque de mode. Je veux créer mon propre parfum. Je tape à ta porte direct. Enfin, j'envoie contact@iff.com.
C'est tout le sujet, en fait, parce qu'encore faut-il savoir qu'on existe.
Bah oui. Et comment on sait que vous existez et comment les gens tombent sur vous, en fait? C'est du bouche-à-oreille, c'est quoi?
C'est du bouche-à-oreille. Parfois, les gens commencent par trouver les adresses de flaconniers ou de ciriers, ou alors ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et c'est un peu mystérieux, en fait, les voies par lesquelles les marques arrivent jusqu'à nous. Et voilà, mais par exemple, on n'a pas aujourd'hui de site internet dédié à la parfumerie fine qui permettrait de nous connaître. On a un compte Instagram et c'est assez mystérieux, en fait.
Ouais. Et c'est une volonté de rester caché ou c'est simplement parce que pour l'instant, il n'y en a pas vraiment besoin, quoi? Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'acquisition et d'une stratégie d'acquisition à mettre en route?
De fait, on n'en a pas vraiment besoin parce que aujourd'hui encore, le gros de la parfumerie, c'est des marques qui sont très installées et qui finalement travaillent avec nous de fait. Ça veut dire que les grands groupes, Puig, L'Oréal, on est identifiés, on est presque incontournables. Mais c'est vrai que moi, dans ce que je fais, j'ai cette dimension. Donc je pense qu'on a la chance de profiter d'un bon bouche à oreille sur les marques qu'on a développées, d'avoir des parfumeurs qui sont connus. Et que les gens arrivent par là. Mais effectivement, c'est toujours un mystère de savoir comment est-ce qu'on arrive parfois à avoir des super marques qui frappent à notre porte pour faire des développements, quoi.
Carrément. Et une question que je me posais, c'est tu disais qu'il y avait une dizaine, grosso modo, de grandes maisons de parfumerie, en tout cas de gens qui font la même chose que vous, et il y en a 3 ou 4 en France quand même, non?
C'est pas forcément des boîtes françaises.
D'accord, c'est pas forcément.
Ça veut dire que moi, par exemple, techniquement, ma boîte est américaine, mais elle est très internationale.
Okay.
Le fait est que culturellement, le parfum, c'est très français. Et donc, la plupart des parfumeurs dans le monde sont français. L'école de parfumerie la plus cotée, qui est l'ISIPCA à Versailles, est française. On a un savoir-faire, une passion pour le parfum qu'on continue de se transmettre et qui fait que, de fait, la plupart, beaucoup de centres de développement de parfum sont en France.
On va faire un petit quart d'heure Stéphane Bern sur l'origine du parfum. Ça vient de quoi, le parfum? Ça vient d'où, de quand, quel moment c'est apparu?
C'est, j'ai envie de dire, de tout temps les hommes, mais mes profs de prépa me taperaient sur les doigts. Mais alors, parfum, ça vient du mot latin perfumum, par la fumée. Parce que dans l'Antiquité, en fait, on brûlait des essences, des ingrédients, en fait, qui avaient des odeurs. Pour laisser la fumée s'envoler et laisser ses odeurs communiquer avec les dieux. Donc l'origine du parfum, elle est religieuse. C'est, ça a un pouvoir et c'est très beau, c'est très beau quoi. Après, dans des époques plus récentes comme le Moyen Âge, le parfum, il a eu un rôle d'hygiène, il nous protégeait des maladies. Et on en a beaucoup parlé avec le Covid, c'est que, je sais pas si tu vois un peu ces masques des docteurs pendant la peste, en fait, cet immense bec, il est rempli de plantes à parfum, parce qu'on considérait que les maladies se transmettaient par les miasmes, ces mauvaises odeurs un peu dégueu, et qu'en fait, ces bonnes odeurs de plantes à parfum nous protégeaient de la maladie. Donc il y a eu aussi toute une histoire du parfum liée à l'hygiène, et je pense que, je sais pas si c'est ta génération, mais on a eu des grands-parents, des grands-oncles, des grandes-tantes qui se frictionnaient à l'eau de Cologne pour se laver.
Oui.
Il y a pas si longtemps que ça.
Il y a pas si longtemps que ça, en effet.
Et sentir bon, sentir le parfum, c'était être propre, être sain, et finalement c'est assez récent que le parfum soit cet objet de consommation hédonique qui aujourd'hui on sent bon pour se faire plaisir, on est propre en dessous, mais ça nous empêche pas de nous parfumer.
Ouais.
Et cette histoire du parfum, on en a beaucoup parlé avec mes collègues et avec nos clients aussi, parce qu'en temps de Covid, parce que c'est une année particulière, on s'est tous posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait du parfum, il y a des gens qui sauvent des vies et nous, on est là. Et en fait, pas du tout, quoi. On a fait intervenir une historienne qui s'appelle Elisabeth de Feydeau et qui nous a parlé du rôle du parfum pendant les crises, les crises économiques, les épidémies, les crises religieuses, voilà. Et on se rend compte que cet objet, parce qu'on n'ose pas dire un objet, il a toujours eu un rôle très très fort, un peu mystique, de reconnexion à Dieu, de reconnexion les uns aux autres, de reconnexion à la nature. Et ça nous aide tous, de se rappeler de ça, ça nous a tous réénergisés en fait, en se disant, mais en fait, ouais, on fait du bien dans un monde qui va pas bien, qui est un peu glauque, peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui va mettre un parfum, je sais pas, qui sent des notes vertes et qui va voyager, quelqu'un qui a pas trop la pêche, qui va mettre une eau de Cologne et qui va se ressentir énergisé, et en fait... ça a un rôle. Donc l'histoire du parfum, pour répondre à ta question, elle est longue, elle est complexe, elle est multiple et elle dépasse ce qu'on lui connaît aujourd'hui d'être juste quelque chose pour se faire plaisir, quoi.
Donc tu sais que la France avait un terreau historique hyper important sur le monde du parfum, mais il y a une ville qui revient tout le temps, c'est Grasse.
Ouais.
Pourquoi Grasse ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Pourquoi il y a encore plein de boîtes qui sont là-bas, qui sont implantées là-bas et qui cultivent des choses ?
Ouais, explique-nous tout ça. Cultivent des plantes à parfum. Alors je vais faire des grands raccourcis historiques, mais à l'origine, Grasse, c'était surtout une région qui était connue pour le cuir, pour ses tanneries.
Oui.
Et à l'époque, contrairement au cuir traité qu'on a aujourd'hui, le cuir sentait très fort, donc il était nécessaire de les parfumer. Donc en complément de cette activité de tannerie, à Grasse, il y avait des plantations de plantes odorifères qui permettaient de parfumer le cuir. Et puis petit à petit, par un glissement, finalement, le cuir a disparu et le parfum est resté. Aujourd'hui, il y a quelques champs qui existent encore à Grasse. Moi, notamment, dans mon entreprise, on a du mimosa qu'on cultive à Grasse. Voilà, donc c'est super beau.
Et là, on est en pleine période, là, en ce moment.
Alors, en ce moment, on n'est pas sur le mimosa qu'on récolte pour les plantes à parfum. Ce sera plutôt fin janvier-février, parce qu'il y a deux espèces de mimosa dont je ne me souviens pas des noms latins.
Ouais.
Mais on récolte plutôt en janvier-février.
D'accord. Et c'est le même mimosa avec les boules jaunes, magnifique, quoi.
Ouais, magnifique. Et en fait, c'est un spectacle sublime pour tous les amateurs de parfum de descendre dans cette région en janvier-février, parce que non seulement on voit le mimosa qui dort toutes les collines autour de Grasse et de Pégomas, mais en plus de ça, quand on sort de la voiture, ça sent.
De ouf.
Et en fait, ça sent cette odeur poudrée, légèrement amandée, savonneuse, verte. On a l'impression d'avoir vraiment des poudres de mimosa qui se déposent sur nous, et c'est toujours un voyage qu'on a envie de faire en cette saison.
Il fait froid à cette époque-là ou pas dans ce coin ? Ou c'est plutôt doux ?
C'est plutôt doux.
15-20 degrés ?
Ouais. Non, moins. Plutôt 15. Mais
ouais, plutôt 15. Ça marche.
Voilà.
Trop cool. Et comment on fait un parfum ? Je vais te poser plein de questions très naïves aujourd'hui.
Il faut.
mais un parfum, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met dedans, en fait ?
Alors, dans un parfum, c'est un mélange d'ingrédients.
Ouais.
Donc, on va avoir ce qu'on connaît le plus, c'est les ingrédients naturels, la rose, le jasmin, le santal, le mimosa, et aussi des matières premières synthétiques. Et en fait, tout le travail du parfumeur qui va avoir des milliers d'ingrédients dans sa palette, ça va être de connaître à la fois les odeurs de chacun de ces ingrédients, leurs interactions, Et à partir de cette connaissance, d'être capable de composer ces formes semi-abstraites que sont les parfums pour créer une odeur. Sachant qu'en plus, dans un parfum, je sais pas si tu as déjà vu dans les magasins, parfois on en parle, les têtes-cœur fond, ce qu'on appelle les pyramides olfactives. Tu as les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond.
Okay.
Parce que ces molécules olfactives, elles vont avoir différentes densités et donc elles vont s'évaporer plus ou moins vite.
Ouais.
Donc les notes de tête, c'est celles que tu vas sentir dans les premières minutes après avoir sprayé ton parfum sur ton bras ou sur une touche. Les notes de cœur, c'est celles que tu vas sentir quelques heures après. Et les notes de fond, c'est quand le soir, tu vas prendre ton écharpe et tu vas sentir ces notes de fond. Et donc le parfumeur, il va jouer aussi avec cette œuvre vivante qui est un parfum pour moduler les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond. Et en fait, il nous emmène dans un voyage en fonction de ces vitesses d'évaporation des ingrédients.
D'accord.
C'est pour ça que c'est un métier extrêmement complexe et vraiment à la croisée entre la science, la chimie, donc, mais aussi la création et l'art. Donc c'est passionnant.
Ok. Et donc ça veut dire que quand je teste un parfum, j'ai intérêt à le porter toute la journée, quoi, parce que
exactement.
Faire ce truc à la parfumerie où tu sens le premier truc, je vais le choisir parce que la première note de tête, non ça, ou
de tête
est excellente, ça se trouve parce que un parfum, il a tendance à vachement évoluer et ça n'a plus du tout la même odeur, quoi.
Exactement. Il faut le suivre plusieurs heures, il faut le porter sur sa peau. Et voilà, donc c'est effectivement mon conseil avant d'acheter un parfum.
Ouais, trop bien. Et alors, bon, ce qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait un parfum. Encore une fois, j'aime bien prendre l'exemple d'une jeune marque de mode, parce que c'est Entreprendre dans la mode qui a envie de faire un parfum. Je pense à Christophe Lemaire. Christophe Lemaire veut faire un parfum.
Là, qui m'appelle.
qui t'appelle. Et qu'est-ce qui... À un moment donné, tu fais un brief, quoi. Comment ça se passe? Explique-nous tout le processus du premier email de prise de contact jusqu'à la livraison du parfum.
En fait, tout dépend. Ce que je dis, c'est que les grandes marques, elles ont des processus qui sont assez rodés avec le brief, le prix, les délais, un rétro-planning, voilà, avec des équipes qui ont l'habitude d'en faire. Moi, les marques avec lesquelles je travaille, généralement, on est vraiment dans un échange et dans une pédagogie, parce qu'elles arrivent avec ces questions-là en disant « Bon, je veux faire un parfum, mais je ne sais pas par où commencer, comment ça marche, qu'est-ce que vous faites exactement ?» Et donc, la première étape, généralement, c'est de s'asseoir et de discuter, de dire « Vous voulez faire un parfum pourquoi? Pour qui? Quand c'est quoi la sensibilité de votre marque ?» Voilà, tirer un peu les grandes lignes. Et réfléchir ensemble à ce à quoi ça pourrait ressembler. Voilà.
Ouais.
Donc, c'est...
Et est-ce qu'il y a le sujet tout de suite désagréable de dire « tu fais combien? C'est quoi les volumes ?»
Le truc, c'est que généralement, au stade où les marques m'appellent, elles ne savent pas vraiment.
Oui.
Ça veut dire que c'est très embryonnaire et généralement, ça se construit au fur et à mesure. Sachant que j'imagine comme un vêtement, il y a plein d'éléments. Il y a le concentré de parfum, l'alcool, la bouteille, le capot, le bouchon, le pack externe. Et que tous ces prix-là, ils peuvent aller du simple au centuple.
Bien sûr.
Donc,
en fonction du volume que tu commandes.
En fonction du volume, mais aussi en fonction de est-ce que je veux faire un flacon standard que je personnalise, parce qu'il y en a beaucoup, surtout dans la niche. Est-ce que je veux faire un moule sur mesure? Est-ce que je veux faire mon moule sur mesure en France qui va me coûter 50 000 euros ou mon moule sur mesure en Chine qui va me coûter 10 000 euros? Est-ce que je veux mettre beaucoup d'argent dans mon concentré de parfum? Est-ce que je veux de l'alcool bio? Est-ce que... Enfin, il y a plein de questions qui font que vraiment on peut... Je pense qu'on peut faire un parfum vraiment de tout fini, prêt à vendre pour 12 euros la bouteille, comme on peut le faire pour 1000 euros, quoi, selon ce qu'on veut faire.
D'accord. Et revenons sur Christophe qui peut faire un parfum. Une fois que t'as mis en place un brief, il y a quoi? Il y a des propositions? Il y a le parfumeur, enfin le nez, qui se met déjà au travail à faire des mix et à faire des propositions, c'est ça?
Voilà. Donc, en fait, Christophe, il va avoir affaire à moi,
okay.
mais aussi à mon évaluatrice. Je dis au féminin, parce qu'en l'occurrence, Anne-Laure Pouquet, c'est mon évaluatrice et qui est spécialisée dans les marques indépendantes.
C'est quoi une évaluatrice, Anne?
Alors, voilà. Donc, une évaluatrice, c'est comme la meilleure métaphore que j'aurais, c'est comme dans la pub, on a un directeur artistique. C'est pas lui qui va forcément photographier la campagne, mais c'est lui qui va donner l'orientation, la ligne directrice, l'impulsion, qui va dialoguer entre le créateur qui est le parfumeur et la marque et les marchés. Donc c'est vraiment un dialogue qui s'effectue entre l'évaluatrice et le parfumeur. Mmh. Donc, et c'est elle qui, par exemple, si Christophe veut faire une collection de parfums,
oui.
Et ben, tous les parfums ne sont pas forcément faits par le même parfumeur, et alors elle va garantir la cohérence entre toutes ces propositions. Elle va être capable de dire, par exemple, bon, Christophe, tu vends beaucoup de vêtements en France et au Japon. Pour les Japonais, c'est important d'avoir des notes comme ci, comme ça. Donc, on a choisi ce parfum de Nicolas Beaulieu, tandis que pour la France, voilà. Donc, ça va être vraiment comprendre et imaginer la signature olfactive de Christophe. Sachant que, et c'est ça, c'est un travail qui est super intéressant, généralement, ces marques qui viennent nous voir, surtout si elles viennent de la mode, elles ne savent pas forcément parler de parfum, parce que c'est tout un vocabulaire qui est très mystérieux. Nous, entre nous, dans ma maison de composition, on va parler d'ingrédients, on va dire, par exemple, ah oui, c'est très 6-3 hexénol.
C'est-à-dire quoi ?
Ce sont les herbes coupées, quoi. Mais évidemment, si je vais voir Christophe en lui disant, personne ne va jamais venir me voir en me disant « je veux une odeur de 6-3 hexénol » parce que c'est pas ça. Donc, notre travail, ça va être aussi de traduire avec mon évaluatrice et moi le message de la marque pour les parfumeurs. Par exemple, si Christophe Lemaire, ça va être une mode intellectuelle, minimaliste, structurée, avec une idée d'aisance et de sophistication derrière des lignes. Voilà. Donc, on va se dire, bon, en parfum, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? On va pas aller vers des notes gourmandes, il n'est pas tellement question de naturalité, il est question de structure. Donc, petit à petit, cet ADN-là, nous, on va réfléchir pour savoir quel brief on donne aux parfumeurs. Comment est-ce qu'on imagine ? Donc, voilà.
D'accord. Donc, vous avez un rôle essentiel,
ouais. C'est vrai, finalement, parce que c'est un langage très particulier, celui des parfums. Et donc, voilà. Donc, si Christophe vient nous voir, il va surtout avoir affaire à mon évaluatrice et moi, justement. Ouais. Et donc, à partir de cette discussion qu'on aura eue avec la marque et des discussions qu'on aura eues entre nous et avec généralement troisième personne qui appartient au marketing et mon équipe, elle est un peu particulière par rapport aux grosses équipes parce que justement, on a toute cette dimension de pédagogie et de partenariat avec les marques puisqu'on est moins fournisseur que partenaire de développement finalement. On va réfléchir à tout ça. Anne-Laure va aller voir les parfumeurs quand on aura décidé aussi des grandes lignes et les parfumeurs vont créer des notes qu'on va resélectionner pour pouvoir proposer les plus pertinentes à Christophe Lemaire.
D'accord.
Et voilà. Et partant de là, il va les sentir, il va pouvoir... ce premier rendez-vous, cette première séance d'olfaction, elle est cruciale et ça a été particulièrement compliqué cette année. On n'a pas tellement pu se voir en vrai parce que c'est très émotionnel le parfum. Et qu'en fait, il se passe plein de choses dans les réactions physiques des gens quand ils sentent le parfum qu'ils ne seraient pas capables de retranscrire en mots et qui nous guident vachement pour savoir si on est dans la bonne route ou pas.
C'est la réaction vraiment physique, le sourire, le visage, la mimique, etc.
Et puis revenir.
Ouais.
On y revient. Ouais.
Et là, vous proposez combien d'odeurs en général ? Enfin, combien de jus ?
Ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, les marques indépendantes, le cas d'école, généralement pour une marque de mode, avant c'était de faire ce qu'on appelle un pilier. Ça veut dire que Paco Rabanne fait Invictus, Chanel fait numéro 5, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les marques qui se lancent indépendamment des groupes proposent plutôt des collections.
Ouais.
Donc tout va dépendre de.
Pourquoi ça ? Enfin, c'est une histoire de mode ou c'est parce que les gens auraient envie d'avoir plusieurs parfums d'une même maison ? Ça vient de quoi ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est moins risqué de lancer une collection, puisque plus de personnes peuvent se retrouver dans leurs notes, alors que quand on lance un pilier, on parie tout sur un parfum, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements publicitaires sur le flacon, etc. Alors que dans la collection, l'idée, c'est plus de se dire, par exemple, j'aime la marque Réunie, je m'identifie à son univers, je m'identifie à ses valeurs, elle me propose du parfum. Et dans cette gamme de parfums, je vais avoir le choix de celui qui, en plus de ça, correspondra à mon goût en termes de parfum. Je pense que c'est vraiment cette démarche-là.
Trop bien. Et enfin moi je trouve que, alors moi j'aime pas trop le parfum. Je suis désolé de te
dire.
Non,
mais c'est parce qu'on s'était pas rencontrés avant. Ouais, je vais trouver le bon. Hein, c'est...
Non, mais je trouve que, je l'ai déjà dit, je crois, dans un épisode, mais je trouve que le parfum, il y a un côté, je m'impose à toi par mon odeur. Et il y a un côté, ça me gêne un petit peu parce que je trouve que moi qui suis plutôt en retrait et dans l'écoute, j'aime pas m'imposer à toi. Tu vois, et je trouve que quand quelqu'un rentre chez moi et impose son odeur à moi, ça me gêne. Tu vois. Donc une fois que tu as dit ça, ce que je voulais dire surtout, c'est que quand tu fais cette première séance de test de sentir,
séance d'olfaction,
séance d'olfaction, voilà. En fait, moi je trouve que ça dépend vraiment de ton mood personnel. Tu vas réagir différemment en fonction de si c'est le matin, si c'est l'après-midi, si c'est l'été, si c'est l'hiver, etc. Et comment tu es sûr de faire le bon choix, quoi ? Comment tu peux être certain que c'est le bon choix.
Pour nous en tant que compositeur ou
pour le client
toi, en tant
pour
qu'individu
toi. Ouais. Non, pour toi et pour le client. Tu vois, quand tu crées ton parfum, parce que c'est tellement engageant, parce qu'une fois que tu as choisi ton parfum, tu ne vas pas le changer dans 3 jours. Quoi.
Bah, ça dépend. Il y a des gens qui aiment avoir un parfum de jour, un parfum de soir, un parfum d'hiver et un parfum d'été. Et juste pour rebondir, aujourd'hui, c'est marrant que tu parles de parfums qui s'imposent à toi, qu'envahissent l'espace, parce que ça a été un grand paradigme du développement de parfums, avant même que j'arrive dans le domaine du parfum, c'est qu'il faut que ce soit plus puissant, plus diffusif, plus puissant, plus diffusif. Et aujourd'hui, depuis peut-être 2-3 ans, on voit une grande tendance dans le parfum qui est ce qu'on appelle, nous, les parfums de peau, les softies, les doudous. Et c'est des parfums qu'on porte pour soi. D'accord. En fait, c'est pour se sentir bien, bien dans sa peau, bien dans ses pompes. Et ce n'est pas forcément des parfums qu'on va porter pour les autres. Donc, il y en a. Je te donnerai des noms. Il y en a des très bons. Et après,
je me rappelle toujours de ma tante ou même mon père qui est le Lacoste Booster et qui envoie du lourd. T'as le Angèle de ma tante qui arrive.
Bah ça, c'est un cas d'école, le Angèle. Hein.
Ah ouais, la vache.
Il n'y a pas beaucoup plus puissant. Et tu l'aimes ou tu le détestes. Hein, ouais. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a fait un bon parfum ? Mais en fait, à un moment, il y a des gens qui vont vouloir porter un parfum qui plaît qu'à eux. Il y a des gens qui vont vouloir développer un parfum qui doit plaire à tout le monde, qui va être testé en Chine, en Allemagne, au Brésil, en France. Et je pense que quand on a fait une belle composition, que tout le monde en est fier, à un moment, il trouvera son public. Tout l'enjeu, après, c'est qu'il soit suffisamment cohérent avec l'univers de marque pour que la personne qui a adhéré à la marque adhère au parfum. C'est plutôt ça, mais après...
Oui, c'est ça, c'est la cohérence, vraiment.
Je pense parce que, comme tu le dis, on ne peut pas sentir un parfum en ligne, on ne peut pas sentir un parfum à travers une image. Donc, à un moment, il ne faut pas qu'il y ait de décrochage d'ADN entre ce qu'on voit et ce qu'on sent. Il faut que le chemin qui nous amène à sentir le parfum, il ait du sens, quoi.
Ouais.
Et après, comme dans la mode, on peut... on peut être très pop comme très minimaliste, outrancier comme intello... Il y en a pour tout le monde, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et une fois que t'as mis au point ton parfum, ton jus ou ta collection, c'est quoi les next steps pour la commercialisation d'un parfum? Qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que bon, une fois que t'as ton jus, c'est cool, mais il faut le packager, il faut orchestrer son lancement, etc. Jusqu'où vous allez vous?
Alors nous déjà, on fabrique le concentré. Une fois que la marque Christophe a validé le parfum, on va le fabriquer. Donc en fait, nous on a la chance d'avoir notre propre plateforme de sourcing des matières premières. On a des champs intégrés, je peux parler des ingrédients de parfum.
Ouais, on va en parler, mais juste une question avant, c'est il faut combien de temps grosso modo entre le moment où tu rentres, où tu passes le pas de la porte de chez vous et vous concluez un jus?
Je pense qu'au minimum,
il
faut prendre 6 mois.
Minimum.
Et sur des parfums, sur certains parfums très connus, on peut compter 5 ans.
Ah ouais.
Ouais, mais ça, en fait, ça, tout dépend. Moi, la chance que j'ai dans les projets que je développe, c'est que généralement, j'ai tout de suite affaire aux fondateurs ou aux gens qui décident dans la marque.
Ouais.
Et donc, en fait, les retours qu'on a, c'est le retour final. Alors que quand on travaille avec quelqu'un, qu'on développe avec quelqu'un, mais qu'en fait, il doit le valider faire son N+1, plus 1, N+2, en fait, il y a beaucoup d'allers-retours.
Et puis, il y a plein de feedback que tu n'as pas en direct, donc c'est insupportable.
Oui, il y a ça. Et puis, en fait, l'ADN de... Je pense que personne ne connaît aussi bien l'ADN d'une marque que la personne qui l'a créée. Et c'est pas forcément par des mots-clés en disant c'est lumineux mais pas éclatant ou un peu des choses comme ça. C'est vraiment très intuitif. Et je trouve ça toujours intéressant quand on parle directement avec le fondateur d'une marque, quand il dit bah, je le sens pas.
Ouais.
Je fais bah ouais, mais en fait t'as raison, parce que personne, même si y a pas les mots pour dire, personne ne connaîtra aussi bien la marque que la personne qui l'a créée, qui vit avec et qui la développe. Et donc si le fondateur il le sent pas, et bah c'est que c'est pas la bonne note,
ouais,
quoi. Et donc on va tout de suite dans le bon sens, ça veut dire
par
que...
l'instinct, ouais.
Mmh. Ouais,
carrément. Et donc voilà, next step, c'est la production du parfum à grande échelle.
Alors nous, on fabrique le concentré.
Ouais.
On va éditer aussi tout un tas de documents pour s'assurer que le parfum qu'on crée, il va pas faire de mal aux gens, il va pas faire de mal à la planète, qu'il va pas y avoir de réaction. Voilà. Et après, on a la chance.
Une question sustainability. Qu'est-ce qui fait qu'un parfum est clean et fait pas de mal à la planète et fait pas de mal aux gens et étiqueté sustainable, quoi?
Il y a deux mots dans ce que tu dis, c'est clean et sustainable. Mmh. Et c'est deux sujets différents. En fait, le mot clean, qui vient plutôt de la cosmétique peau que du parfum, il nous vient surtout des États-Unis, où on a une législation qui est beaucoup plus... Far West.
Plus light, ouais.
Ouais, beaucoup plus light qu'en Europe. Mm. Et ce qui fait qu'il y a eu tout ce mouvement de dire, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans nos crèmes, on ne sait pas ce qu'il y a dans nos parfums. Voilà, donc on a revendiqué des parfums clean. Et en fait, beaucoup de parfums qui sont claimés clean aux États-Unis sont des parfums normaux en France. Parce que nous, on s'interdit des ingrédients que les États-Unis ne s'interdisent pas. Mm. Donc, d'autant plus que le monde du parfum, et ça, c'est des technicités, mais on est autorégulé par quelque chose qui s'appelle l'IFRA, je crois que c'est les International Fragrance Association, où on fait des études régulières pour s'assurer que les ingrédients qu'on utilise sont nocifs ou pas, pour décider de dosage maximum, décider parfois d'interdiction en amont de la loi. Donc on ne fait pas de parfum qui ne soit pas clean. Après, l'autre question, c'est la soutenabilité. Et la soutenabilité, elle peut toucher à plein d'aspects. Comment fonctionnent les usines dans lesquelles on fait du concentré de parfum? Comment est-ce qu'on source les ingrédients? Il y a des ingrédients très connus qui ont été à la source de problèmes de soutenabilité. Je pense au santal en Inde qui a pu être braconné. Aujourd'hui, on ne se fournit plus de santal en Inde. On a créé nos propres plateformes où à chaque fois qu'on en cultive un, on en plante trois. Il y a plein de choses. Mmh. Le carbone renouvelable, être sûr que ce soit carbone renouvelable, c'est de vastes sujets.
Ouais, mais il y a des certifications qui font que, comme tu sais, dans le coton, tes gouttes, tes FSC, tes machins, etc. Ouais, il y a ce genre de choses.
Il y a des certifications.
Ouais, mais dans la mesure où j'imagine que c'est comme dans la food ou la beauté, à partir du moment où tu le mets directement sur la peau, il y a peut-être vous êtes un peu plus avancé que peut-être l'industrie de la mode, non?
Ah oui, oui. Oui, parce que de toute façon, on a des dosages maximaux. À chaque fois qu'on fait un parfum, on vérifie que c'est pas dangereux.
Bien
donc grâce à l'IFRA. Et je réfléchissais aux certifications. Il y a plusieurs certifications. Il y a les certifications d'ingrédients et les certifications sur le produit fini. Ouais. Nous, ce qu'on utilise chez IFF à travers notre entreprise de sourcing d'ingrédients naturels, on a quelques plateformes For Life à travers le monde, qui est une certification particulièrement contraignante parce qu'elle prend en compte non seulement le respect de la planète, mais aussi le respect des communautés, le respect de l'agriculture, de l'humain. Et voilà, on en a en Turquie, on en a en France, on en a à Madagascar. Je ne vais pas dire de bêtises, mais...
Trop bien.
Voilà.
Et l'autre partie, c'était le packaging. Enfin, on parlait de la mise en production, finalement, parce qu'une fois que tu produis ton jus... parce qu'un parfum, il y a les huiles essentielles, non? Mais il y a aussi une grosse partie où c'est de l'alcool pur et dur pour la grosse partie du liquide, c'est ça, non? Explique-nous.
Je dirais qu'entre 80-85% du parfum, c'est de l'alcool, effectivement. Mm-hmm. Mais l'alcool, il peut être... ça peut être un alcool de blé, un alcool de betterave, un alcool bio, ce qui va coûter du simple au quintuple, je crois, entre un alcool basique et un alcool bio.
Ouais.
Et le reste, c'est le concentré de parfum, qui est souvent très très cher au kilo, parce que notamment selon le degré de naturel qu'il contient. Et nous, en plus, moi, tous les projets que je développe, ils sont faits dans un endroit très particulier qui s'appelle l'atelier du parfumeur à Grasse. Et en fait, qui est une des dernières manufactures où les parfums sont pesés à la main. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la production de parfums à grande échelle, généralement, c'est des, c'est un peu les temps modernes de Chaplin, des robots un peu partout qui mélangent des formules en fait, parce qu'un parfum à la fin c'est ça, c'est une formule avec des parts d'ingrédients. Et alors que dans cette manufacture qui a été créée par un parfumeur il y a quelques dizaines d'années déjà, c'est un opérateur qui a sa formule, qui va choisir en fonction de sa connaissance des ingrédients l'ordre dans lequel il va les mélanger. Pour, par exemple, l'exemple qu'on me donnait, c'était les citrus, il va les mettre en dernier pour ne pas les abîmer, pour qu'ils soient le mieux conservés dans la formule avec les autres matières. Donc ça, c'est une spécificité de la manière dont on produit les parfums.
D'accord.
À Grasse, évidemment.
Ouais, à Grasse, évidemment. Et une fois que t'as ta citerne, c'est empaqueté dans des flacons, toute cette partie flaconnage, identité du parfum, etc., ça se passe comment? Vous aussi, vous accompagnez les marques là-dessus?
On peut accompagner les marques parce que je me rends compte que c'est une demande. Nous, le cœur de notre métier, c'est vraiment la création du concentré. Mais comme je travaille avec des marques qui se lancent, de plus en plus, finalement, on les accompagne sur tout ce développement. Donc, comment est-ce qu'on trouve un designer? Comment est-ce qu'on fait un flacon? Quelles sont les solutions pour le faire? Donc, généralement, il y a plein d'acteurs. En termes industriels, une fois qu'on a sourcé les composants, donc le concentré, l'alcool, le flacon, le capot, qu'on a personnalisé le flacon, qu'on a personnalisé le packaging, on va l'envoyer dans une entreprise qui généralement se charge de tout. Ça veut dire qu'elle va mettre le concentré dans l'alcool, le faire macérer, mettre ça dans le flacon, refermer le tout, le cellophaner et pouvoir l'envoyer. Donc ça, aujourd'hui, comme pour le parfum, j'allais dire comme pour le cuir en Italie, mais c'est encore une industrie qui est très française, donc toutes ces opérations, elles ont la particularité de pouvoir être faites en France.
Ça, c'est cool.
Ouais, et ça, c'est cool. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte avant de rentrer vraiment dans l'industrie du parfum, à quel point c'était une exception française. Ce savoir, non seulement le savoir-faire du parfum, mais même la production. La verrerie, l'assemblage.
Oui, c'est vrai.
En fait, on peut pratiquement
tout produire.
Tout sourcé en France. Ouais.
Et la raison, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est un produit qui se vend cher et qui est relativement peu cher à fabriquer ?
Ça, je sais pas. Je pense que c'est honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est des raisons historiques qui fait qu'il y a des savoir-faire qui sont installés depuis tellement longtemps que finalement, on sait qu'en faisant un appel à un verrier français, on sait qu'on aura quelque chose de bien, quoi.
D'accord. Et ça coûte quoi de développer un parfum ?
C'est ce que je disais, c'est du simple au centuple en fait.
Ouais.
Est-ce qu'on va faire un moule sur mesure? Est-ce que, par exemple, le prix du concentré, mais ça peut être...
Non mais juste pour donner un ordre de grandeur, mais
Je pense que pour 20 000 euros, on peut lancer une première petite production.
D'accord. En prenant en compte la création et le développement et le lancement, etc. Ouais. Et 20 000 euros, je suis capable de lancer un parfum.
Et c'est une petite production.
Mais une petite production, c'est quoi? C'est pareil, c'est 100 bouteilles, c'est 2000, c'est 5000,
c'est entre 500 et 1000 bouteilles.
Entre 500 et 1000 bouteilles.
Sachant qu'après, il faut connaître les bons fournisseurs qui vont accepter ces minimums de quantité.
Ouais. Et ils jouent le jeu en général ou pas trop?
Ça dépend des fournisseurs, en fait. Et puis après, justement, c'est tout l'enjeu de faire appel à des gens qui s'y connaissent, qui vont être capables de moduler le bon standard avec un bon minimum, avec le bon copacker, avec le bon... la bonne finition pour personnaliser son flacon.
Ouais. Trop bien. J'ai envie de faire un parfum.
Ben voilà.
C'est hyper intéressant. C'est quand même un gros business, le parfum. C'est fou le nombre de maisons de mode qui survivent grâce au parfum. Tu en parlais de Paco Rabanne, de Gautier, etc. etc. Comment ça se fait que c'est un produit qui ramène autant d'argent pour ces grandes maisons de mode? Explique-nous le modèle économique du parfum.
Le modèle économique du parfum. Alors ça, il faudrait peut-être être dans la marque. Ce que je sais, c'est que c'est vraiment pas quelque chose de récent puisque le numéro 5 de Chanel, c'est les années 20.
Oui.
Donc je pense que l'avènement de l'industrie moderne du parfum, c'est la même que l'avènement des grands créateurs de mode, du prêt-à-porter. Et ce qu'on sait souvent, c'est que c'est plus facile de s'acheter un parfum même à 100 euros que d'acheter une paire de chaussures à 700 euros. Donc on s'achète une partie de ce rêve des grandes marques qu'on ne pourrait pas forcément s'offrir.
C'est vraiment mainstream. Enfin, c'est vrai que c'est comme quand tu achètes un rouge à lèvres Chanel ou Dior, qui même s'ils sont beaucoup plus chers par rapport à un truc que t'achètes chez Sephora sans marque, t'accèdes au rêve.
Ouais, après, je pense qu'il y a un changement de paradigme depuis quelques années, justement, avec des marques de niche, des marques indépendantes, où finalement, sans doute, un peu comme le vêtement, on a plus envie de savoir comment c'est fait, on a plus envie de fouiller, d'aller vers des choses rares, des choses uniques, où finalement, ça suffit peut-être plus pour tout le monde d'avoir un grand nom, d'avoir le parfum qui va plaire à tout le monde, à la française, à l'américaine, à l'allemande, à la chinoise. Et voilà, donc chercher à mettre plus finalement l'accent sur l'odeur, sur le parfum, sur les ingrédients, sur parfois le parfumeur, et peut-être moins sur l'image et le fantasme.
Ouais, une question que je me pose, c'est les marques qui se sont lancées récemment sur Internet, ou qui sont sur Internet, ou qui vendent sur Internet, comment ça se passe pour que les gens puissent sentir les flagrances ?
Bah, c'est un peu le nerf de la guerre dans le parfum, parce que autant, comme je disais, Internet, la digitalisation, ça a permis à certaines marques de se lancer sans avoir à négocier tout de suite avec des gros retailers qui avaient pignon sur rue. Et pourtant, on est beaucoup moins, c'est beaucoup moins facile que dans la mode et que dans la cosmétique plus classique. Genre en termes de proportion de vente en ligne, on n'a pas sauté le pas. Ce qui marche généralement, c'est l'échantillonnage. Ça veut dire proposer des sets. Aujourd'hui, c'est souvent payant parce que finalement, ça coûte assez cher. Donc mettons, j'ai une collection de 5 parfums. Je vais te vendre un set de petits 5 millilitres à 20 €. Tu vas sentir les 5 et puis s'il y en a un qui te plaît, tu vas pouvoir me commander un flacon et les 20 € que tu as payé pour le set seront déduits. Donc ça, d'accord, c'est une des techniques. Ça va être, si tu commandes ton parfum, de t'accompagner de 3 échantillons pour que tu puisses les sentir sans déceler la bouteille, sans la déceler. Et si tu te rends compte que le parfum, c'était ce que tu voulais, tu le gardes. Et puis sinon, tu le renvoies tel quel et puis tu demandes un des autres échantillons que tu avais voulu. Mais voilà, il y a quelques marques qui font des questionnaires en ligne. Donc soit des questionnaires synesthésiques en disant si tu étais une couleur, si tu étais une sensation, si tu étais... une musique, et essayer d'imaginer un petit peu le profil olfactif de la personne, ou d'autres qui vont faire des questionnaires plus olfactifs, quels sont les parfums que t'as portés, quel est ton parfum préféré, le parfum de ton enfance. Mais aujourd'hui, on est quand même sur du mélange entre digital et retail en vrai.
Ouais, il y a toujours des mix. Ouais.
Voilà. Je pense que le nerf de la guerre, c'est vraiment ça, c'est l'échantillonnage. Parce qu'à un moment, le parfum, il faut le sentir. Et comme je disais, à un moment...
Il
faut qu'il vive. Et puis, on n'a pas... le langage du parfum, il est synesthésique. Ça veut dire qu'on va dire d'un parfum... On va faire appel à des mots qui qualifient d'autres sens pour parler d'une odeur. On va dire d'une odeur qu'elle est verte, craquante, sombre, lumineuse, je sais pas, parfois joyeuse, enfin. Et ça, finalement, ce que moi, je vais trouver vert comme odeur, parce que j'ai grandi dans les tropiques, ça ne va pas du tout être la même chose que le vert pour quelqu'un qui a grandi à Paris. Ou l'odeur de... toujours pour revenir à la question de l'Esbosien, moi, je n'ai pas mangé de cerises et de fraises avant mes 12 ans. Parce que voilà, j'ai mangé plein de papayes, plein d'ananas. Donc pour moi, la cerise, c'est l'odeur du yaourt à la cerise. Ce n'est pas du tout l'odeur de la vraie cerise. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on aura beau en parler, finalement... on ne parle jamais complètement la même langue. Donc, c'est essentiel de le sentir. Donc, l'échantillonnage en ligne, c'est ce qui aide mieux. Je crois que les stratégies d'influenceurs, ça marche beaucoup parce que la recommandation est très importante pour les consommateurs. Et souvent, le parcours d'achat de quelqu'un qui va acheter du parfum, c'est du mix online-retail. Ça veut dire que je vais découvrir le parfum en ligne ou via la pub. Avant d'aller le sentir, je vais aller me renseigner, peut-être sur des forums, je vais regarder la description, je vais voir les avis des autres consommateurs, qui va me pousser à aller le sentir en magasin, quitte à l'acheter en ligne parce que j'ai une réduc. Voilà. Donc le web a son importance, mais aujourd'hui, c'est pas encore majoritaire dans la vente. Après, il y a de plus en plus de solutions, les gens sont de plus en plus imaginatifs. Pourquoi pas avec des box à parfums pour les découvrir, des associations avec d'autres marques. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée, par exemple, de proposer de l'échantillonnage dans des ventes de vêtements, par exemple. Il y a des bonnes opérations à faire là-dessus. Mais voilà, donc le système parfait reste à inventer.
Très bien. Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'on peut parler des marques de parfums qui font que ça? Enfin, Après, non, parce que ce qui, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles du marché du parfum aujourd'hui, qui sont les différents acteurs. Tu parlais, il y a plein de petites maisons qui se lancent, etc. C'est quand même hyper, hyper fouillis, finalement. Parce que ça va de Angèle à des trucs très pointus qui coûtent très, très cher.
Et des trucs très pointus qui coûtent pas si cher finalement, ouais, qui sont plus accessibles.
Ouais. Et comment on s'y retrouve ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grandes tendances du moment, et en tout cas comment le gâteau est découpé finalement ?
Aujourd'hui encore, le gros du gâteau, c'est ce qu'on va appeler le prestige. Donc le prestige, très caricaturalement, c'est les parfums qu'on peut acheter chez Sephora, généralement associés à des grands designers. Donc on disait Chanel, Paco Rabanne, Givenchy. Voilà, nous, chez IFF, on a la chance d'en avoir fait quelques-uns de pas mal du tout. Ouais. On a fait l'Interdit Givenchy récemment, Libre d'Yves Saint Laurent, ouais. My Way d'Armani, Invictus de Paco Rabanne, c'est nous aussi. Okay. Donc c'est des parfums dans ces segments-là, c'est des bombes, c'est des années de travail et c'est sublime aussi à sa manière. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que la niche c'est mieux, que voilà, je pense qu'il y a un marché qui est éclaté et que tout le monde peut s'y retrouver. Et donc ça, c'est le gros du gâteau du monde du parfum, en Europe en tout cas. Parce qu'après, je ne peux pas parler pour le Brésil qui a un marché beaucoup plus mastige, comme on va dire, avec des produits plus accessibles, avec des changements réguliers, les Chines qui restent un marché à découvrir. Mais je vais vraiment parler pour l'Europe, qui est ce que je connais. Et au-dessus de ça, on a ce qu'on appelait la niche. Ouais. Donc la niche, très caricaturalement, c'est... pas caricaturalement d'ailleurs, puisque c'est le meilleur exemple, c'est Frédéric Malle. Frédéric Malle, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de pub. C'est le nom du parfumeur qui est sur le flacon. Toute l'importance, c'est le flacon est un flacon standard. Ça veut dire que quel que soit le parfum, c'est le même design de flacon. Et tout l'accent va être mis sur le parfum qu'on sent. Donc sur l'odeur, sur la qualité incroyable de matière première qu'on ne pourrait pas se permettre ailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la niche. Donc remettre le créateur et le parfum au centre du propos, par-delà le marketing. Frédéric Malle, c'est une marque qui a fêté ses 20 ans, là, cette année. Et voilà, donc ça, ce segment-là qui est plus petit, il a des chiffres de croissance à double chiffre depuis quelques années. Ça veut dire que de plus en plus, les consommateurs vont aller chercher de l'exception. Et partant dans un cas d'école comme Frédéric Malle, finalement, ce domaine de ce qu'on appelait la niche, il devient de plus en plus complexe. On va parler de indie brands ou de DNVB, comme ce qu'on fait pour la mode, les Digital Native Vertical Brands, avec l'accent. Et voilà, et parfois elles vont être aussi chères qu'un parfum vendu chez Sephora, parfois plus cher, parfois moins cher. Et voilà, et donc c'est dans toute cette poche-là de marques indépendantes qu'on est en train de se réinventer. Et sachant que ces marques-là vont être plus agiles, vont prendre plus de risques pour se différencier parce qu'elles n'ont pas les mêmes ambitions de plaire au plus grand nombre. Par exemple, nous, un projet dont on est super fiers de notre petite équipe, c'est la marque Bastille. Qui a gagné l'équivalent des Oscars de la parfumerie. Ça s'appelle les Fifi Awards pour Fragrance Foundation Awards. Et il a gagné le premier Fifi Awards du parfum soutenable. Et c'est des parfums qui sont formulés à 95% naturel, avec la transparence de la formule, qui est tout un sujet, parce qu'en fait, le parfum, on a un statut de propriété intellectuelle un peu particulier, qui fait que, si je comprends bien, je ne suis pas juriste, mais je ne peux pas poursuivre en quelqu'un en justice qui copierait mon parfum.
Okay.
Donc la seule chose qui me protège, finalement, c'est le secret que je vais conserver autour de ma formule de parfum. C'est pour ça que souvent, si tu regardes derrière l'étiquette de ton parfum, il y a écrit parfum et l'alcool et quelques ingrédients qui sont les allergènes, la listinki, qu'on est obligé de mettre. Voilà. Et qui sont généralement, ces allergènes sont des composantes des ingrédients naturels. Donc je sais plus pourquoi je disais ça.
Non, mais tu parlais de Bastille.
Ah voilà. Et donc Bastille, elle a fait la transparence de la formule, ce qu'elle a pu faire parce qu'elle est plus petite, parce qu'elle est plus agile, voilà, de l'alcool bio, 95% de produits naturels, et ça c'est quelque chose de très nouveau. Finalement, ça va pas forcément parler à tout le monde de faire du parfum naturel, mais elle peut le faire parce qu'elle est plus petite, parce qu'elle a pas forcément l'ambition de devenir le Jeff Bezos du parfum, et que voilà. Et finalement, ça trouve son public aussi.
Ouais. Mais comment on... Comment, parce que Alors, la question que je me posais, c'est comment tu te positionnes aussi sur ce marché-là quand tu sais que, bah, tu me diras, c'est comme dans une marque de mode, t'as un t-shirt à 1,50€ comme tu en as à 4 000€. Mais comment on positionne son parfum? Parce qu'il y a quand même l'équation économique à un moment donné. Tu disais, ça coûte entre 12€ et ça peut coûter plusieurs milliers d'euros de faire un parfum. Enfin, en tout cas, un flacon de parfum peut coûter ce prix-là, d'après ce que je comprends. C'est quoi les pratiques sur ce marché? Tu sais, dans le vêtement, on dit que les DNVB, elles sont à 2,5, 3, 3,5, 4. Quand tu revends chez un revendeur, t'es plutôt à, enfin, quand tu vends en direct, t'es à 7, 8. Et quand t'es une maison de luxe, tu revends à entre 8 et 12.
De marge.
De coefficient multiplicateur. Mm-hmm. Comment ça se passe dans le parfum? On est sur ce même type de ratio ou...
Alors, pour être tout à fait honnête, j'en sais rien, parce que moi, je ne dirige pas une marque de parfum.
Ouais.
Ce que je peux voir dans la façon dont je travaille, c'est que c'est marque indépendante et je pense que c'est important aussi. Elles vont mettre plus d'argent dans le concentré de parfum.
Ouais.
Parce que là où est le produit que les gens achètent, elles vont se permettre plus de matières premières naturelles, plus de concentration, plus de... Ça va être, on va être moins justement sur quelque chose de très comptable parce que le plus important finalement pour se différencier, ça va être d'avoir un produit de qualité. Et je pense, comme dans la mode, voilà, pourquoi est-ce que j'irais acheter dans la petite marque indépendante deux fois plus cher quelque chose que je pourrais tout aussi bien acheter dans la marque connue chez Sephora finalement. J'ai besoin d'aller chercher des nouvelles qualités ou des ingrédients que, par exemple... Il y a des ingrédients très chers, parce qu'ils sont naturels, on les source dans peu d'endroits, le narcisse, la gentiane, qu'on ne sent pas dans la plupart des grands parfums, parce que ça coûte excessivement cher. Et ben finalement, une marque indépendante, elle va peut-être pouvoir se permettre d'utiliser cet ingrédient, et c'est cette différence-là qu'un consommateur va aller chercher, parce que littéralement, ce qu'il sent là, il ne pourra pas le sentir ailleurs. Mmh. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Et par exemple... pour mes parfumeurs aussi, parce que c'est aussi ça, travailler pour des marques indépendantes, c'est s'éclater pour un parfumeur, faire des choses qu'il ne ferait pas ailleurs. Et donc, parfois, je refuse des projets, parce que ça, c'est aussi le petit luxe de mon métier, c'est que je choisis avec qui je travaille. Mmh. Parce qu'on a pignon sur rue, on a une petite équipe, et puis on a vraiment envie de pouvoir se dédier aux marques auxquelles on travaille, de les accompagner vraiment, d'avoir toute cette dimension de pédagogie. Et j'ai aussi envie que les parfumeurs, quand je leur présente un projet, ils soient contents, qu'ils sachent qu'ils vont pouvoir s'éclater, soit qu'il y a un brief complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude de traiter, ou alors qu'ils sachent qu'ils ont accès à des matières premières auxquelles ils ne travailleraient pas, ou alors qu'il y a un challenge créatif comme formulé en 95% naturel. Mmh. Donc,
c'est un vrai challenge créatif.
Ouais.
D'accord.
C'est un vrai challenge créatif. Mmh.
Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire du 100% naturel. Il y a toujours une part de synthétique.
C'est pas qu'on n'y arrive pas.
Ouais.
C'est parce que tout est possible. Et pendant longtemps, on a fait du parfum naturel. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est un parfum? Je suis pas sûre. Donc oui, on peut le faire. C'est juste que ça coûte très cher. Mmh. Donc en termes de prix de concentré, on est sur peut-être 500, 600, 700 euros du prix au kilo. Donc c'est énorme. Et surtout, on ne s'y retrouve pas hédoniquement. Ça veut dire que vraiment, la parfumerie moderne, c'est la naissance du synthétique. Sachant que les ingrédients synthétiques en parfumerie, ce n'est pas quelque chose qui date des années 60. Le plastique, c'est fantastique. Ça date du milieu du 19e siècle, avec des ingrédients comme la coumarine, la vanilline et des grands classiques de la parfumerie comme Jicky de Guerlain. Mmh. En fait, ils existent grâce à l'avènement des molécules synthétiques. Ou Fougère Royale d'Oubigan, qui est un parfum qui date de la fin du 19e siècle. Mmh. Donc en fait, on a cette espèce de fantasme de l'ingrédient naturel, mais la parfumerie, depuis 150 ans, c'est grâce au synthétique qu'elle est comme elle est. Mmh. Voilà. Donc on peut le faire, mais ça sent moins bon selon les critères de la parfumerie moderne.
D'accord.
Voilà.
Et qu'est-ce qui fait qu'un parfum fonctionne ou pas?
Alors ça...
Ça, c'est la magie.
Ça, c'est la magie. Pour en avoir parlé avec quelques parfumeurs, il faut qu'un parfum il soit signé et reconnaissable. Ouais. Ça veut dire que si je ferme les yeux et que je le sens, je le reconnais, je peux le confondre avec aucun autre. Mmh. Et donc, parfois, c'est rassurant. Des marques qui se lancent, qui voudraient être un peu à la manière de ressembler un peu à... Voilà. Mais il faut toujours trouver quelque chose de disruptif, particulièrement quand on est une marque indépendante, parce que c'est ça qui va faire le succès. Et après, chacun a sa petite recette... C'est magique, hein. Ouais. c'est comme une chanson où il y a quelques ficelles, mais à la fin, est-ce qu'on sait vraiment ce qui va devenir un tube? Je suis pas sûre.
Non. Et le, toi, dans les parfums que t'as, enfin, dans, en tout cas, dans les marques que t'as accompagnées, qu'est-ce qui, d'après toi, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné ou pas? Parce qu'à un moment donné, bon, le parfum, une fois que tu l'as fait, il t'appartient plus. Il y a aussi toute la dimension marketing derrière, distribution, etc., qui fait une grosse différence, j'imagine. Quand tu bombardes à la télé et en 4 par 3 partout, ton parfum, à un moment donné, il a plus de chances d'avoir du succès. Mais peut-être que je te poserai la question différemment. Qu'est-ce qui fait qu'un... Est-ce que tu connais, peut-être pas forcément via toi, mais des parfums qui ont réussi, qui ont vachement bien réussi, mais au départ, ils n'avaient pas toutes les chances de leur côté, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'un parfum va avoir un succès commercial alors qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de marketing derrière, il n'y avait pas forcément... C'était pas écrit dans le, c'était pas écrit que ça allait fonctionner, quoi.
Je vais faire une réponse un peu cucu, mais je pense que la sincérité de la démarche, c'est vraiment important parce que, comme on dit, si je sais pas, je rentre dans une boutique Le Maire et que j'aime bien et que du coup je sens le parfum et que c'est ça et que ça sent bon et que ça vaut le prix que ça coûte, d'une certaine manière, on a plus de chances de trouver son public. Et en fait, comme je dis, les marques de niche aujourd'hui, c'est des marques qui ont des croissances
exponentielles. Ouais.
Des croissances exponentielles.
C'est quoi les marques de niche en ce moment, à part le monsieur dont tu nous parlais? C'est qui déjà?
Bah, y a Bastille, Frédéric Malle, Diptyque, Goutal. Ça peut être des marques historiques, des marques plus récentes comme. Ouais. Le labo, l'artisan parfumeur, enfin il y en a plein de plus en plus. Il y en a certaines qui sont rachetées par des grands groupes, il y en a qui restent volontairement indépendantes. Nous on travaille avec Masque Milano, avec BDK qui est une marque française qui est top et qui grandit vachement. Et en fait, elles sont toutes différentes, parfois avec un parti pris très dans la célébration de la haute parfumerie, parfois avec des partis pris beaucoup plus iconoclastes. Là, on a lancé on a créé des parfums pour une marque qui s'appelle Corps Volatile, qui est complètement conceptuelle et qui en même temps sent très bon. C'est 24 parfums, 12 compositions 100% naturelles, justement, qui sentent bon, et 12 molécules de synthèse, donc juste une molécule de synthèse. Et l'idée, c'est de mélanger les deux. Donc, c'est tout un jeu, c'est hyper intellectuel. Tu regarderas, le design, c'est très... C'est argenté, un peu labo, très chic. Et en même temps, bon, c'est pas, on n'est pas dans l'artisan, dans son labo, qui mélange des odeurs un peu à la Bully. Mais voilà, là-dedans, il y a un parti pris qui est très différent. Ça vient de se lancer. Mais je pense que typiquement, ce genre de parti pris, c'est ce qui va faire qu'on va se dire, ce que je trouve chez Corps Volatile, je ne peux pas le trouver ailleurs. Donc, il n'y a pas de recette magique. Parce qu'il y a aussi bien des marques qui vont être dans la célébration d'un imaginaire, d'autres qui vont être dans la célébration de l'ingrédient naturel, d'autres 100% synthétiques qui vont trouver leur public, qui vont marcher. Et pour moi, justement, ce qui fait que ça marche, ce n'est pas une recette magique, c'est la sincérité de la démarche et la cohérence d'un bout à l'autre. Je ne sais pas si c'était clair, mais en même temps, il y a tellement d'acteurs et voilà, nous... On va faire des parfums, ce que je dis, 100% naturel, 100% synthétique, un mélange des deux, très pop ou alors très élitiste.
Et comment vous voyez les choses évoluer dans les années qui viennent?
En termes de... déjà, en termes d'odeur. On a été... là, on sort... Tu parlais d'Angel. On sort d'une... Ça fait 30 ans maintenant, Angel. C'est les années 90. Ouais. De ce qu'on appelle la gourmandise. Parce qu'il faut savoir que ce qui a fait le succès d'Angel, c'est une molécule qui s'appelle le veltol ou l'éthylmaltol, qui sent la barbe à papa.
Oui.
C'est très sucré. Et on a eu plein de parfums très sucrés, très puissants, très diffusifs, très envahissants, pour le bonheur de plein de gens. Et finalement aujourd'hui on se met comme tu le disais un peu plus en sourdine, on va aller chercher des odeurs
pour soi.
Des odeurs pour soi, mais surtout des odeurs très liées à la naturalité. Et là avec le Covid, le fait qu'on ait été enfermé dans nos apparts, qu'on ait eu besoin de s'échapper de plus en plus fort, donc des odeurs vertes qui aujourd'hui sont assez vintage, des matières comme le galbanum qui sent le petit pois par exemple, ou alors des odeurs de mousse de chêne, de sous-bois, des choses comme ça, ou des grands floraux blancs. Donc ça, on voit beaucoup le retour. Et ces odeurs de peau, donc des musques, des odeurs poudrées, de l'iris, de l'ambrette. Ça, c'est un peu là qu'on voit le futur olfactivement. Enfin, le futur demain, quoi.
Ouais, le futur demain. C'est ce qui se passe en ce moment dans vos labos, quoi.
C'est ce en quoi on croit.
Ouais.
C'est ce en quoi on croit. Et puis, je pense, beaucoup d'expérimentation autour de nouvelles règles de formulation de parfums liées à ce besoin de naturalité, quoi.
Comment tu t'inspires, toi? Comment tu sens l'air du temps, justement?
Bah,
Cette question-là.
Non, mais c'est une bonne question. Après, moi, je suis pas parfumeur, mais forcément, je pense qu'on a des convictions. Déjà, il faut s'écouter en tant que consommateur, de quoi on a envie, parce que on a beau être dans le métier, on est aussi, on est des gens comme les autres.
Consommateurs, consommatrices.
Et la chance qu'on a aussi chez IFF, c'est que nous, on a notre petit studio dédié à la niche, très agile, un peu comme une start-up indépendante. Mmh. Mais on appartient à qui pèse à grâce, à la main, voilà. Mais on appartient quand même à un navire amiral, qui est une boîte internationale qui est leader, en fait, sur la création de parfums, parfumerie fine. Mmh. Et donc, on a la chance d'avoir un super département d'études conso. Ça veut dire qu'on va aussi demander aux consommateurs ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils ressentent. On les a beaucoup suivis depuis le début de cette épidémie pour comprendre est-ce qu'ils continuent à se parfumer ? Est-ce qu'on se parfume quand on est tout seul chez soi ?
Et alors ?
C'est très marrant parce que au premier confinement, les gens se sont moins parfumés parce que pour eux, le parfum, c'était quelque chose qu'on faisait pour les autres. Et à ce deuxième confinement, en fait, dans cette deuxième vague de Covid, ils se sont remis à se parfumer. Et parce qu'ils se rendaient compte que ça leur faisait du bien à eux, en fait. Que, voilà. Et ils ont été vers des notes qui leur faisaient sentir justement en sécurité, coucounés, réénergisés, propres, protégés.
Et ça, c'était quoi les odeurs alors, pour se sentir propre et protégé ?
C'est les muscles.
Ouais.
Les muscles, globalement, ou alors ce qu'on appelle des notes fraîches, un peu comme l'eau de Cologne. Donc, voilà. Et il peut y avoir plein d'interprétations, mais nous, ces mots, ils vont nous inspirer pour se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire un parfum dans lequel on sent comme un. Comme dans un nuage, quoi. Donc, on a ça aussi. Et puis, un troisième pan de l'inspiration, c'est que comme on a la chance d'avoir le sourcing de nos ingrédients qui est intégré, que ce soit dans le naturel, avec, on va chercher, c'est très niche, hein, mais c'est quoi le prochain géranium qu'on va extraire ? Comment est-ce qu'on peut distiller le patchouli différemment ? Faire ressortir des facettes qui n'existaient pas avant, upcycler des ingrédients de la nourriture. On fait ça, on a un nouvel ingrédient, c'est le curcuma. Donc, c'est un tout nouvel ingrédient pour les parfumeurs. Je pense qu'on a souvent l'impression qu'on n'invente rien en parfum, mais si. Et on a aussi la R&D qui crée des molécules synthétiques.
Okay.
Et donc, en fait, toute cette recherche et développement sur l'ingrédient, elle va aussi nous permettre d'imaginer les odeurs de demain. Parce que parfois, une molécule, ça va ouvrir un nouveau champ des possibles. Et on se rend compte, quand on regarde l'histoire de la parfumerie, que les grandes tendances, elles sont souvent jalonnées d'innovation dans les molécules synthétiques.
Ah ouais.
Ouais.
Hyper intéressant.
Toutes les odeurs aquatiques des années 90, ce qu'on appelle les odeurs marines, ozoniques, les cool water. Enfin, je ne sais pas si c'est 90 ou 80, mais je peux taper sur les doigts. Mais...
OK.
Par les parfumeurs, mais voilà, toutes ces parfums. Là, il y a eu... la coumarine et la vanilline, c'est les grands parfums de Guerlain aussi. Donc, c'est très lié au synthétique, finalement.
D'accord.
Et le Veltol, ces dernières années.
Et un métier qui paraît assez mystérieux, c'est les nez. Il n'y en a pas beaucoup, des nez, dans le monde, non ? Il y en a quelques dizaines, non ? C'est quoi, quelques centaines, non ? C'est assez...
C'est assez... pas plus que quelques centaines, ça c'est sûr. Après, il y a des... Moi, je parle...
C'est un peu des rockstars, non ? J'ai l'impression.
Oh non, c'est... Oh, c'est pas le mot, c'est des artistes, c'est sûr. Enfin, moi, je trouve que c'est des artistes. Et après, je parle du point de vue de créateur en parfumerie fine. Il y a aussi des parfumeurs qui font le parfum de ta lessive, le parfum de ton savon, le parfum de ton shampoing.
Oui.
Ouais.
Vous faites. C'est vrai que c'est une question que j'avais en tête que je t'ai pas posée. C'est vous faites que le parfum. Vous allez pas sur de la bougie ou sur de la beauté, etc.
Si, en fait, dans IFF, donc International Flavors and Fragrances, cette grande multinationale, elle fait des arômes et des parfums.
Okay.
Et dans les parfums, on va avoir différents centres qui vont faire des parfums pour la cosmétique, des parfums pour les shampoings, des parfums pour les lessives, des parfums... En fait, on est vraiment ces boîtes où vous nous connaissez sans nous connaître parce qu'il y a de fortes chances que 10 fois au cours de ta journée, t'aies été confronté à des produits qu'on a développés ou le goût ou l'odeur.
D'accord. Même le goût.
Même le goût, ouais.
Ok.
Je crois que la Danette à la vanille, c'est un de nos grands succès dont on peut être fier.
Ouais.
Et voilà, mais moi, les parfumeurs avec lesquels je travaille, ils font ce qu'on appelle la parfumerie fine, donc vraiment les parfums qu'on se spraye sur le corps. On fait aussi de la bougie. On fait beaucoup de bougies.
Toi, tu t'en occupes de ça aussi ?
Ouais.
Trop bien.
On a quelques contacts de ciriers aussi qui sont top parce que finalement c'est très technique la bougie, beaucoup plus que la base alcoolique.
Okay.
Et parce que c'est de la chimie.
Okay. Hyper intéressant.
Et, voilà. Et les parfumeurs, effectivement, donc, même en comprenant l'ensemble des métiers que peut recouvrir le nom de parfumeur, il y en a quelques centaines tout au plus. Et on aime bien dire qu'il y a moins de, parfumeurs que de prix Nobel. Ou il y a moins de parfumeurs que d'astronautes.
Et donc, ils gagnent vachement d'argent, alors, ces gens. Non, ils sont très, très riches.
Non,
je sais pas.
Ça doit faire partie du secret du métier, parce que je sais pas du tout s'ils sont très riches.
Ils arrivent comment au bureau? Ils sont en Twingo ou ils sont en...
J'irai faire un tour au parking pour aller voir ça. C'est vrai que je suis pas assez vénale. J'aurais dû aller voir. Il y en a pas beaucoup, et surtout c'est un vrai chemin de croix pour réussir à devenir parfumeur. C'est de la patience, c'est de la prise de risque, c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, finalement, parce qu'il y a pas tellement de postes de parfumeur à pourvoir, et il faut être formé par une entreprise, finalement.
Ouais, tu peux pas te former tout seul.
On peut se former tout seul, mais c'est pas pareil, en fait. Quand je vois la formation que suivent les parfumeurs qui travaillent pour IFF, c'est comme la différence entre un chef et moi qui cuisine. Alors, si ça se trouve, je peux être un vrai cordon bleu, mais je ne suis pas au niveau d'un grand chef, quoi. C'est pas le même métier, c'est pas la même chose.
Oui, il y a une différence entre faire sa petite popote à la maison et servir 200 personnes un repas gastronomique, quoi.
C'est ça, et puis d'avoir appris pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il continue de se perfectionner, de sentir les naturels, il forme aussi. Enfin, c'est un métier d'une vie, quoi. Et c'est passionnant, et les gens qui font ce métier sont vraiment exceptionnels.
Ouais. On a beaucoup parlé de ton métier, mais toi, tu n'as pas beaucoup parlé de toi, finalement. Tu as envie de quoi pourquoi tu t'épanouis là-dedans, et comment tu imagines la suite des événements pour toi?
Alors, je m'épanouis dans le parfum parce que c'est un monde de passionnés. C'est vraiment ce monde des maisons de composition, en plus, qui, comme on l'a dit au début, est finalement assez mystérieux et assez secret. Quand je l'ai découvert, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ouvert la porte d'une caverne d'Ali Baba, avec ce côté très, très émouvant, finalement, de la transmission. C'est un peu comme les corporations du Moyen-Âge, où c'est des métiers qui se transmettent au sein d'une entreprise, de mentor à élève, où j'apprends des choses que j'aurais pas pu apprendre autrement, avec une sensibilité, parce que le parfum, pour revenir à ce que je disais au début, c'est le seul des cinq sens qui, quand il est perçu par tes nerfs, en fait, envoie le message directement à la zone de ton cerveau qui gère la mémoire et les émotions. Et en fait, elle passe pas par un petit filtre rationnel qui va comprendre ce qui s'est passé avant de le relier à une émotion, à un souvenir. C'est l'inverse. Donc, c'est un monde d'émotions. C'est vraiment un monde d'émotions, quoi. Donc, je trouve ça très beau. Et ce que j'aime particulièrement dans le fait de travailler avec des marques qui s'y connaissent pas, c'est que je peux transmettre ça, quoi. Et j'espère transmettre un peu de magie et pas être juste fournisseur, ou VRP. Donc voilà, je trouve que c'est un métier...
Il y a un truc très magique dans le parfum que tu n'as pratiquement nulle part ailleurs, quoi.
Ouais, c'est un métier de poésie. Et en même temps, d'un côté, c'est une industrie, d'un côté, c'est de la chimie. Mais parfois, je me retrouve à avoir des questions sur telle réaction chimique qui fait que le parfum a une couleur. Et je me dis, vu mes études, franchement, j'ai tout fait pour pas faire de chimie. Comment je me retrouve à faire ça? Parce qu'en fait, en ce qui me concerne, même si c'est une composante, c'est pas le sujet, quoi. Donc voilà, donc c'est parler avec des gens passionnants et passionnés et transmettre cette passion, c'est ça qui m'éclate.
Et tu vas continuer à faire ça longtemps?
Je sais pas, j'espère au moins quelques années, et puis après on verra, hein, les passions, ça va, ça vient.
Ça va, ça vient, c'est comme les amours, ça va, ça vient.
Voilà, mais j'espère que ça durera longtemps.
Ouais, bien sûr.
Et puis moi, ce dont j'ai hâte, c'est que c'est des... En fait, développer un parfum, ça peut prendre du temps. Là, finalement, les projets sur lesquels je travaille, il y en a beaucoup qui ont été retardés, qui n'ont pas pu sortir cette année. J'espère qu'ils sortiront en 2021. Et c'est sentir les parfums qu'on a développés dans la rue, se dire qu'il y a des gens qui vont les sentir.
T'en reconnais, toi?
Pas encore. C'est sûr qu'avec le masque dans la rue, ça n'aide pas. Donc j'espère, quand on aura tous enlevé nos masques, mais c'est de se dire...
Peut-être un jour.
Franchement, quelque part, il y a quelqu'un qui a passé une sale journée. Le soir, il va ressortir. Et puis avant de sortir, il va se mettre du parfum, il va se sentir mieux. Et peut-être que ce sera pas complètement grâce à nous, mais que quand même, on l'aura aidé à passer une meilleure soirée ou une meilleure journée, ou peut-être à choper, tout simplement. Et voilà. Et ça, c'est un peu magique.
Trop bien. Bah, écoute, merci infiniment. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais voulu aborder?
Franchement, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir tellement parlé que...
Ouais, mais t'as beaucoup parlé. Tu nous as partagé énormément de choses, mais il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être un peu plus approfondies. Mais est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec un parfumeur?
Bah oui, avec grand plaisir.
Ouais.
Avec grand plaisir.
Et tu penses qu'il serait généreux, comme tu l'as été?
Bah, c'est des artistes, donc parfois ils sont peut-être plus timides. C'est un métier incroyable. On est à la croisée entre un côté un peu geek d'avoir fait ses études de chimie, puis il faut être passionné pour le faire, vraiment, parce que c'est un chemin de croix pour réussir à y arriver. Donc, faut être un peu monomaniaque par moment. Et en même temps, on a plein de super parfumeurs, donc je suis sûre que j'en trouverai qui seraient heureux de venir partager leur métier.
Allons-y, faisons ça. On passe aux questions de la fin. Donc, tu sais, j'ai toujours quelques questions à la fin. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Donc, j'imagine un parfumeur. Tu peux peut-être nous en citer un?
Oh, un parfumeur.
Ou autre chose, hein, ou quelqu'un d'autre. Hein, je te fais la réponse, pardon.
Non, un parfumeur ou peut-être pour la prochaine étape, quelqu'un qui a créé sa marque de parfum, comme Nicolas Chabot qui a créé Corps Volatile, ou Marie-Hortense Varin qui a créé Bastille.
Ouais.
Et qui ont tous les deux inventé de nouvelles manières de faire, un peu comme les jeunes marques de mode aujourd'hui, quoi. Donc, je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir leur point de vue. Et sinon, un parfumeur, je pense qu'il y en aura un très bientôt.
Ouais, ça marche. Et l'autre question, c'est, tu sais, j'ai une marque qui s'appelle Réunie. Peux-tu me donner quelques conseils qui pourraient m'aider à améliorer cette marque?
Il faut faire un parfum.
mais là, la vraie question que je me pose, c'est le parfum, j'ai l'impression que ça vient finir une silhouette. Et c'est quoi le bon timing pour lancer un parfum dans une marque?
Alors ça, ma bonne dame, je pense que c'est au feeling. Après, j'y pensais avant de venir, je me disais, ah, c'est vrai, c'est marrant ce concept de sortir des vêtements en précommande, en édition limitée. Un truc que je trouve très beau dans le parfum et qui rappelle, ça j'en ai pas parlé, tiens, alors que c'est hyper important. Et ce que j'adore dans le parfum, c'est que c'est très émotionnel et que c'est hyper terrien. Finalement, c'est hyper terrien, c'est des odeurs, c'est des molécules, c'est des agriculteurs quelque part dans un champ en Indonésie qui récoltent du patchouli. Et c'est l'idée de la récolte aussi, faire des... Bah, en février, on porterait du mimosa, en mai, de la rose, enfin. Voilà, mais sinon, je sais pas quel est le bon moment. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas se lancer dans le parfum si on n'est pas sûr de qui on est et si on n'a pas une image de marque bien installée.
Ouais,
parce que ça doit être dans la continuité. Et c'est cette image de marque très forte qui va nous guider dans la création.
Ouais, donc si tu sais pas qui tu es toi-même, ça va être compliqué de,
oui, voilà,
de faire un parfum qui
soit
juste.
De toute façon, je pense que si tu sais pas qui tu es toi-même, je vois pas trop où peut aller ta marque.
Ouais,
finalement,
c'est compliqué.
Il y en a tellement que je sais toujours cette réponse, c'est la sincérité et l'authenticité de la démarche, quoi.
C'est clair. Donc conseil, ouais, lancer son parfum en suivant la saisonnalité. Ça y est, on a le concept.
Je suis là, appelez-moi, Christophe Lemaire, si tu es là.
Ça marche. Ouais, je ne sais pas s'il nous écoute, Christophe. Très bien. Et bah, écoute, merci infiniment pour ton temps et pour ton partage. Et merci de nous avoir fait découvrir ce monde du parfum. Moi, ça a attisé beaucoup ma curiosité. Donc, on va continuer à creuser dans ce sens.
Merci beaucoup.
Bonne continuation. Salut.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.